Lénine, mars 1922, de la signification du matérialisme militant. Trois petits points. Cette revue, note de bas de page, pod znameniem marxisma, sous la bannière du marxisme entre parenthèses, revue philosophique, politique et économique, paraissant en Russie depuis 1925, paraît également en allemand, dans les publications politiques et littéraires à Vienne et à Berlin. Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Nous avons des départements ou pour le moins des institutions d'État dont ce travail relève. Mais ce travail est conduit avec une extrême mollesse, avec une insuffisance extrême, parce que se ressentant visiblement du joug des conditions générales de notre bureaucratie authentiquement russe, ouvrez la parenthèse, soviétique pourtant. Fermez la parenthèse. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que, pour suppléer le travail des institutions d'État compétentes, pour le corriger et l'animer, la revue qui se consacre à devenir l'organe du matérialisme militant mène une propagande et une lutte athée, inlassable. Il faut suivre attentivement toute la littérature appropriée dans toutes les langues, la traduire ou, tout au moins, donner des comptes rendus sur tout ce qui peut présenter une valeur quelconque dans cet ordre d'idées. Engels a toujours recommandé aux dirigeants du prolétariat contemporain de traduire la littérature combative athée de la fin du XVIIIe siècle. À notre honte, nous n'y avons pas procédé jusqu'à présent, ouvrez la parenthèse, une des multiples preuves du fait qu'il est bien plus facile de conquérir le pouvoir dans une époque révolutionnaire que de savoir user justement de ce pouvoir, fermez la parenthèse. On justifie parfois notre mollesse, notre inaction et notre inhabileté par toutes sortes de considérations d'ordre supérieur, entre guillemets. On se plaît à dire, par exemple, que la vieille littérature athée du XVIIIe siècle est désuète, non scientifique, puérile, etc. Rien de plus terrible que ce genre de sophisme pseudo-scientifique qui masque soit le pédantisme, soit une incompréhension totale du marxisme. Il est certain que l'on découvrira bien des choses non scientifiques et puériles dans les œuvres athées des révolutionnaires du XVIIIe siècle. Mais nul n'empêche les éditeurs de ces ouvrages de les abréger et de les munir de courtes postfaces évoquant les progrès réalisés dans la critique scientifique des religions par l'humanité depuis la fin du XVIIIe siècle, en mentionnant les ouvrages les plus récents qui s'y rattachent, etc. La plus grande et la pire des erreurs que puisse commettre un marxiste serait de croire que les masses populaires, formées de nombreux millions d'êtres humains, ouvrez la parenthèse, et surtout la masse des paysans et des artisans, fermez la parenthèse, vouées par toute la société moderne aux ténèbres, à l'ignorance et aux préjugés, ne peuvent sortir de ces ténèbres que par la voie directe d'une instruction purement marxiste. Il est indispensable de fournir à ces masses des matériaux les plus variés de propagande athée, de les initier aux faits pris dans les domaines les plus divers de la vie, de les aborder de telle et telle façon pour les intéresser, les tirer de leur sommeil religieux, les secouer à fond par les moyens les plus divers, etc. Le journalisme ardent, vif, ingénieux, spirituel des vieux athées du XVIIIe siècle qui attaquaient ouvertement la prêtraille régnante s'avéra bien souvent mille fois plus apte à tirer les gens de leur sommeil religieux que les redites du marxisme, fastidieuses, arides, presque entièrement dépourvues de faits habilement choisis et destinées à les illustrer, qui dominent dans notre littérature et qui, inutile de le cacher entre parenthèses, déforme souvent le marxisme. Toutes les œuvres de quelque importance de Marx et Engels ont été traduites en notre langue. La crainte de voir le vieil athéisme et le vieux matérialisme rester chez nous sans les amendements qui y ont apporté Marx et Engels est dépourvue de tout fondement. L'essentiel, et c'est justement ce qu'oublient le plus souvent nos communistes, soi-disant marxistes, mais qui pratiquement ne font que dénaturer le marxisme, l'essentiel et de savoir intéresser les masses toujours absolument incultes par une attitude consciente vis-à-vis des questions religieuses et par une critique éclairée des religions. D'autre part, considérez les représentants de la critique scientifique moderne des religions. Presque toujours, ces représentants de la bourgeoisie instruite complètent, entre guillemets, le démenti qu'ils apportent eux-mêmes aux préjugés religieux par des raisonnements qui les font apparaître aussitôt comme des esclaves idéologiques de la bourgeoisie, comme des « valets diplômés de la prêtraille », entre guillemets. Note de lecture. C'est Joseph Ditzgen père qui appelle ainsi les professeurs de philosophie des pays occidentaux, ceux des tendances philosophiques contemporaines aux textes de Lénine. L'expression est citée ici sans plus d'explication parce qu'elle a déjà été utilisée plus haut, dans une partie du texte, son début, qui ne figure pas dans la présente édition. On la trouve dans la version de l'archive internet des marxistes sous le titre, ouvrez les guillemets, « La portée du matérialisme militant », fermez les guillemets. Voir l'URL à la fin du billet de présentation sur littératureaudio.com. Note de la donneuse de voix, fin de la note de lecture. Presque toujours, ces représentants de la bourgeoisie instruite complètent, entre guillemets, le démenti qu'ils apportent eux-mêmes aux préjugés religieux par des raisonnements qui les font apparaître aussitôt comme des esclaves idéologiques de la bourgeoisie, comme des « valets diplômés de la prêtraille », entre guillemets. Deux exemples. Le professeur R. U. Viper a fait éditer en 1918 un petit livre, « L'apparition du christianisme », ouvrez la parenthèse, « Ed Pharos, Moscou », fermez la parenthèse. Relatant les principales acquisitions de la science moderne, l'auteur, loin de combattre les préjugés et le mensonge, qui sont l'arme de l'Église en tant qu'organisation politique, loin d'élucider ces questions, a cette prétention vraiment ridicule et réactionnaire de s'élever au-dessus des deux extrêmes, entre guillemets, l'idéalisme et le matérialisme. C'est se prosterner devant la bourgeoisie régnante qui, dans le monde entier, prend des centaines de millions de roubles sur les bénéfices qu'elle fait suer aux travailleurs pour soutenir la religion. Le savant allemand bien connu, Arthur Deves, qui, dans son livre intitulé « Le mythe du Christ » renverse les fables et préjugés religieux et démontre que Jésus n'a jamais existé, note de lecture. L'auteur du, ouvrez les guillemets, « mythe du Christ », fermez les guillemets, est Christian Heinrich Arthur Drews, 1865-1935 entre parenthèses, philosophe et écrivain allemand, défenseur de la non-existence historique de Jésus-Christ, dont l'orthographe est D-R-E-W-S, et non Arthur Drews, avec l'orthographe de cette présente édition, à savoir D-A-W-E-S. Ouvrez la parenthèse, fr.wikipedia.org, article Arthur Drews, consulté le 27 novembre 2016. Fermez la parenthèse. Note de la donneuse de voix. Fin de la note de lecture. Arthur Drews se prononce à la fin de son ouvrage pour la religion, mais rénové, expurgé, subtilisé, capable de tenir tête au, ouvrez les guillemets, torrent naturaliste qui s'affermit de jour en jour, fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, page 238 de la quatrième édition allemande, 1910, fermez la parenthèse. C'est un réactionnaire déclaré, conscient, qui aide ouvertement les exploiteurs à substituer aux vieux préjugés religieux pourris des préjugés tout nouveaux, encore plus répugnants et plus infâmes. Cela ne signifie pas qu'il ne faille point traduire « Drews », c'est-à-dire que communistes et matérialistes conséquents doivent, tout en réalisant, dans une certaine mesure, leur union avec la partie progressiste de la bourgeoisie, la dénoncer inlassablement quand elle tombe dans la réaction. se soustraire à l'union avec les représentants de la bourgeoisie du XVIIIe siècle, époque où elle fut révolutionnaire, reviendrait à trahir le marxisme et le matérialisme. Car l'union, entre guillemets, avec les devs sous telle ou telle forme, à quelque titre que ce soit, s'impose à nous qui luttons contre les obscurantistes religieux au pouvoir. La revue « Sous la bannière du marxisme », qui entend être l'organe du matérialisme militant, doit réserver une bonne place à la propagande athée, à des aperçus de presse appropriés et à un redressement des erreurs considérables de notre action étatiste dans ce domaine. Il importe spécialement d'utiliser livres et brochures qui contiennent de nombreux faits concrets et comparaisons illustrant le lien qui unit les intérêts et organisations de classe de la bourgeoisie contemporaine avec les institutions religieuses et les organismes de propagande religieuse. Éminemment importants sont tous les matériaux relatifs aux États-Unis de l'Amérique du Nord, où la liaison officielle gouvernementale, étatique, de la religion et du capital apparaît bien moins. Par contre, nous y voyons plus clairement que la pseudo-démocratie actuelle, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, devant laquelle menchéviques, socialistes révolutionnaires et, en partie, anarchistes, etc., s'agenouillent si inconsidérément, fermez la parenthèse, n'est rien autre que la liberté de prêcher ce que la bourgeoisie a intérêt à avoir prêché, savoir les idées les plus réactionnaires, la religion, l'obscurantisme, la défense des exploiteurs, etc. Nous voulons espérer que la revue, qui entend être l'organe du matérialisme militant, donnera à notre public des aperçus de littérature athée en indiquant pour quel cercle de lecteurs et sous quel rapport tel ouvrage pourrait convenir. On aura soin d'indiquer également ce qui a déjà paru chez nous, ouvrez la parenthèse, ne seront mises en ligne de compte que les traductions passables, et il n'y en a pas tant. Fermez la parenthèse, et ce qui doit encore être édité. Outre l'union avec les matérialistes conséquents, qui n'appartiennent pas au Parti communiste, ce qui n'est pas moins, sinon plus, important pour le travail dont aura à s'acquitter le matérialisme militant, c'est l'union avec les représentants de la science naturelle moderne qui penchent vers le matérialisme et ne craignent pas de le défendre et de le propager contre les flottements philosophiques dominants dans ce qu'on appelle la « société cultivée » entre guillemets, et orientée vers l'idéalisme et le scepticisme. L'article de Hatti Miryazeff sur la théorie de la relativité d'Einstein, paru dans le numéro 1-2 de la revue « Sous la bannière du marxisme », permet d'espérer que cette dernière réalisera cette seconde union également. Donnons-lui un peu plus d'attention. Il ne faut pas oublier que c'est précisément du bouleversement radical de la science naturelle moderne que naissent constamment les écoles philosophiques réactionnaires, grandes et petites, des tendances de grande et de moindre valeur. Aussi bien, vouloir suivre les problèmes que met en ligne la récente révolution en matière de science naturelle est une tâche sans laquelle le matérialisme militant ne saurait être, en aucun cas, ni militant ni matérialiste. Si, dans le premier numéro de la revue, Timiryazev a dû faire cette réserve que la théorie d'Einstein, ce dernier ne menant, selon Timiryazev, aucune campagne active contre les bases du matérialisme, a été reprise avec empressement par une énorme masse de représentants de la classe intellectuelle bourgeoise de tous les pays. Cela est vrai non seulement pour Einstein, mais pour tout un ensemble, sinon pour la majorité des grands réformateurs de la science naturelle, à dater de la fin du XIXe siècle. Et pour ne pas faire preuve d'inconscience face à ce phénomène, nous devons comprendre qu'à défaut d'une base philosophique solide, il n'est point de science naturelle ni de matérialisme qui puisse résister à l'envahissement des idées bourgeoises et à la régénération de la conception bourgeoise du monde. Pour soutenir cette lutte et la mener pleinement à bonne fin, le naturaliste doit être un matérialiste moderne, un partisan éclairé du matérialisme représenté par Marx, c'est-à-dire qu'il doit être un matérialiste dialectique. Pour atteindre ce but, les collaborateurs de la revue « Sous la bannière du marxisme » doivent se livrer à l'étude systématique de la dialectique de Hegel. Note de bas de page. Hegel, 1770-1831 entre parenthèses, philosophe allemand, le représentant le plus éminent d'une théorie idéaliste de l'évolution. Ouvrez les guillemets. Pour Hegel, le processus de la pensée, dont il fait une entité indépendante sous le nom de « l'idée » entre guillemets, est le démiurge, le créateur entre crochets, de la réalité formée par sa seule manifestation extérieure. Par contre, pour moi, l'idée n'est rien d'autre que la chose matérielle transplantée dans le cerveau humain et assimilée par lui. Ouvrez le crochet, umgesetzt und übergesetzt, fermez le crochet. Fermez les guillemets. Marx, postface au premier volume du Capital, ouvrez la parenthèse, confère Marx et Engels sur le matérialisme historique, volume 2, page 95, édition allemande, fermez la parenthèse, note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Donc, pour atteindre ce but, les collaborateurs de la revue sous la bannière du marxisme doivent se livrer à l'étude systématique de la dialectique de Hegel du point de vue matérialiste, dialectique que Marx a appliquée pratiquement dans son Capital et dans ses écrits historiques et politiques, cela avec un tel succès que maintenant, chaque jour, l'éveil de nouvelles classes à la vie et à la lutte en Orient, ouvrez la parenthèse, Japon, Inde, Chine, fermez la parenthèse, c'est-à-dire l'éveil des centaines de millions d'humains qui forment la plus grande partie du globe et qui, par leur inaction historique et leur sommeil historique, ont été cause jusqu'à présent du marasme et de la décomposition frappant de nombreux États avancés d'Europe. Chaque jour, l'éveil à la vie de nouveaux peuples et de nouvelles classes corrobore de plus en plus le marxisme. Assurément, le travail nécessité par cette étude, par cette interprétation et cette propagande de la dialectique hegelienne étant extrêmement difficile, il n'est pas douteux que les premières expériences dans ce domaine comporteront des erreurs. Mais ne se trompe jamais que celui qui ne fait rien. En nous inspirant de la manière dont Marx appliquait la dialectique de Hegel, comprise dans le sens matérialiste, nous pouvons et nous devons envisager cette dialectique sous toutes ses faces. Reproduire dans la revue des passages empruntés aux ouvrages de Hegel, les interpréter dans le sens du matérialisme, commenter à l'aide d'exemples d'application de la dialectique par Marx, de même qu'à l'aide d'exemples de dialectique appliquée au domaine des relations économiques, politiques, exemples que l'histoire récente et notamment la guerre impérialiste actuelle et la Révolution fournissent en surabondance. Le groupe des rédacteurs et des collaborateurs à la revue sous la bannière du marxisme doit former à mon sens une sorte de, ouvrez les guillemets, société des amis matérialistes de la dialectique hegelienne, fermez les guillemets. Les naturalistes modernes trouveront, ouvrez la parenthèse, s'ils savent chercher et si nous apprenons à les aider en cela, fermez la parenthèse, dans la dialectique de Hegel interprétée dans le sens matérialiste, des réponses aux questions philosophiques posées par la révolution à la science naturelle et qui font trébucher, entre guillemets, dans la réaction, les admirateurs intellectuels de la mode bourgeoise. Note de lecture. Voici la version de ce passage dans l'édition de la MIA. Citation. Les savants modernes trouveront, trois petits points, des réponses aux questions philosophiques posées par la révolution des sciences de la nature et qui font que les intellectuels admirateurs de la mode bourgeoise s'égarent, entre guillemets, dans la réaction. Fin de citation, fin de la note de lecture. Faute de s'assigner cette tâche et de la réaliser systématiquement, le matérialisme ne saurait être un matérialisme militant. Il demeurera, pour employer l'expression de Chedrin, note de bas de page, Saltykov Chedrin, satirique russe bien connu, note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Il demeurera, pour employer l'expression de Chedrin, moins combattant que combattu. Faute de cela, les grands naturalistes expérimentateurs resteront, aussi fréquemment que par le passé, impuissants dans leurs déductions et généralisations philosophiques. Car la science naturelle progresse avec une telle rapidité traverse une période de bouleversement révolutionnaire si profond dans tous les domaines que la science naturelle ne peut absolument pas se passer de déduction philosophique. Sous la bannière du marxisme, numéro 3, mars 1922.